Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Richard Aboif, le président de l'association Stolperstein 67, à propos d'un polissage de pavés informel qui a eu lieu ce dimanche à Strasbourg et à Kehl, veille de l'anniversaire de la Nuit de Cristal. Richard Aboif, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous présenter l'association Stolperstein 67 que vous présidez ?
Alors, c'est une association qui a été créée il y a 2 ans, après d'âpres négociations avec le Consistoire, la mairie de Strasbourg et l'Eurométropole, et donc qui aujourd'hui travaille sur les pavés de la mémoire avec la Fondation de Berlin, la Fondation Guter-Demling de Berlin, avec qui nous sommes en permanence en contact. Et donc, cette association a pour but de initier donc par cet artiste allemand Guter-Demling que tout le monde connaît maintenant oui. Et qui a pour but de commémorer donc la mémoire des déportés en grande majorité juive puisque la Shoah a touché de très nombreuses communautés mais pas seulement puisqu'il s'agit également de commémorer la mémoire des opposants, des résistants, des homosexuels au national-socialisme et au nazisme. Et donc ces pavés sont installés dans l'espace public, devant le dernier domicile, à la mémoire de ceux qui ont franchi le seuil de leur maison pour la dernière fois. Donc ce projet de Stolperstein, qui a essaimé dans toute l'Europe, puisqu'aujourd'hui on a 26 pays qui sont rentrés dans le projet, on a eu 75 000 poses en l'espace de 25 ans à peu près, a été donc installé à Strasbourg, après donc des négociations, comme je l'ai précisé. Et donc le projet se déploie, se développe donc sur le Bas-Rhin et le Haut-Rhin aussi. Et donc ce projet qui malheureusement a été interrompu, il y a eu une pause, hein, en raison de la situation sanitaire ces derniers mois, a trouvé une résonance très forte dans la capitale alsacienne, mais bien au-delà, puisque les communes comme Diemeringen, Bouxwiller, Ingwiller, Bischwiller, Bar ont été également demandeuses de poses de Stolperstein. Et c'était prêt pour les poses donc en avril et mai dernier, mais donc ça a été reporté d'une année en raison de cette crise sanitaire, donc, comme je le soulignais.
Voilà. Donc vous invitez les familles à venir polir à la mémoire des déportés qui habitaient dans les maisons où sont posés les Stolperstein.
Alors voilà, alors chaque année au moment de la Nuit de Cristal, là c'était la veille hier, on lance une invitation à tout le monde, hein, c'est une démarche citoyenne, pour venir polir effectivement ces pavés de mémoire pour réinstaller un petit peu cette mémoire dans l'espace public. Et la veille de la Nuit de Cristal n'est pas anodine puisqu'on sait très bien que c'est le prélude de la Shoah. Et donc c'est un projet qui nous est parvenu d'un mouvement citoyen de Kehl, qui est animé par deux personnes essentiellement, donc Frédéric Peter qui est historien, qui est porteur de la mémoire de Stolperstein et des familles juives, de la communauté juive de Kehl, et par un jeune homme, David Gumpel, qui est également très impliqué dans ce projet. C'est eux qui ont lancé cette idée à Kehl, qu'on a reprise à Strasbourg, et d'ailleurs on fait un polissage conjoint, entre les deux villes de Kehl et de Strasbourg. Et il y a 2 ans, on avait organisé un polissage donc citoyen et les deux maires s'étaient associés à ce polissage, donc des Stolperstein sur les lieux où ils ont été implantés. Et il y avait des fois des dizaines de personnes qui venaient à telle adresse, puis à d'autres adresses également, pour polir ces Stolperstein, comme ça a été lancé par ce collectif Kellois. Voilà. Et donc hier, en raison de la situation que vous connaissez et qu'on traverse, on a lancé donc un appel sur Facebook et des démarches individuelles ont été donc ce sont des démarches individuelles qui se sont manifestées pour aller polir des Stolperstein sur les 6 sites d'implantation, en tout cas à Strasbourg.
Donc forcément des riverains.
Voilà, puisqu'on leur a demandé de respecter effectivement les contraintes, 1 km, puis donc voilà, et de sortir avec une leur autorisation. Et puis ça s'est fait donc sur l'ensemble des sites où ont été apposés les Stolperstein le 1er mai 2019 sur Strasbourg.
L'objectif, c'est à terme d'avoir un Stolperstein pour chaque victime de la Shoah.
Alors, c'est strictement possible, il faudrait des siècles, d'après, d'après les études qui ont été faites par même par l'artiste Günter Demling. Mais bon, c'est un projet qui réinstalle cette mémoire dans l'espace public et disséminée dans toute l'Europe, comme je l'ai souligné.
Oui.
Et qui, contrairement aux autres mémoriaux construits sur un seul lieu, comme le mémorial d'Eisenmann à Berlin, donc s'étend chaque année au fil des poses de ces pavés en laiton. Donc c'est un projet qui est en développement perpétuel. C'est un contre-monument, au sens où, contrairement à ceux qui sont mis en place, ce sont des initiatives ici individuelles et qui se focalisent sur une victime en tant qu'individu, en tant que déporté. C'est ce qu'on appelle de la micro-histoire. On n'est plus dans une histoire globale qui parle de chiffres et qui affiche des milliers de noms sur des stèles, sur des murs. C'est pas une critique que je fais.
Oui.
Mais c'est une autre façon de parler de ce contre-monument où chaque individu, on focalise sur chaque individu, sur une victime en tant qu'individu, et on replace donc son identité, son nom, puis sa date de naissance et de déportation, de disparition, devant son domicile. Et ça, ça me paraît être beaucoup plus causant, en tout cas pour beaucoup de jeunes avec lesquels on a pu travailler, et de scolaires, que effectivement parler de millions et de millions de personnes qui ont été exterminées. La dimension humaine et individuelle disparaît quelque part devant des chiffres astronomiques.
Comment est-ce que vous sélectionnez justement ces personnes à qui vous allez rendre un hommage avec ces Stolperstein?
Alors, c'est une demande de la part des familles. On en a quasiment chaque semaine. Encore avant-hier, j'ai eu une demande d'une dame de la Vansonneau. Donc, on récupère tous les éléments qui constituent donc le dossier de la disparition donc de la personne. Nous avons des historiens qui travaillent avec nous. Ces historiens confirment donc les éléments qu'on a. Une fois qu'on a tous ces éléments et cette confirmation de la part de nos historiens, on envoie le dossier sur Berlin. Et en général, donc c'est eux qui nous donnent une date de pose. Et donc ils fabriquent la Stolperstein, ce pavé-là en laiton. C'est assez codifié. Hein. Il y a le nom, la date de naissance, le lieu de déportation, le lieu de mort. Donc c'est très codifié parce que c'est un pavé de 10 sur 10. Hein, donc, c'est un petit pavé en laiton, donc on inscrit ces informations sur le pavé, et donc avec les familles ou les descendants, on s'accorde sur une date, et évidemment, il faut que les mairies nous donnent leur accord, puisque c'est l'espace public qui est concerné. Et cette installation se fait en général en petit comité ou bien de manière beaucoup plus importante avec beaucoup de monde, comme c'est arrivé le 1er mai à Strasbourg. On a eu des centaines de personnes et de représentants de toute la classe politique qui étaient présents pour ces premières courses.
Vous faites participer également les enseignants en tant que responsables éducatifs. C'est important devoir de mémoire auprès des plus jeunes.
Ah oui, tout à fait. Alors, Pour information, on a monté à l'Orte Strasbourg une exposition justement sur l'historique des Stolperstein avec 20 grands panneaux qui a circulé encore le mois dernier au collège Malraux de Vansonneau, qui a été présenté dans une vingtaine de structures éducatives, mais également dans des maisons de la culture, mais essentiellement dans des collèges et dans des lycées. D'ailleurs, elle devait partir au mois de décembre à Clébert. On ne sait pas quand est-ce que ça va pouvoir se faire. Et les enseignants sont très très preneurs de ce genre d'initiative, parce que c'est une initiative qui parle évidemment d'altérité, qui parle de discrimination, qui parle de racisme, d'antisémitisme, et qui a évidemment une assise historique. Donc c'est très intéressant, c'est très porteur pour les enseignants. Et très très souvent, on a pu organiser des débats et des séances avec les jeunes collégiens ou lycéens. Même au-delà, on a présenté ça à Sciences Po, donc dans différentes structures. L'exposition devait même être présentée à l'Assemblée nationale ce mois de novembre, mais elle a été différée d'un an en raison de ce qui se passe actuellement, en dehors de la crise.
Vous avez le sentiment, voilà, vous, que les citoyens, bon alors on va parler de Strasbourg, parce qu'on est à Strasbourg, que les citoyens strasbourgeois connaissent la signification de ces pavés?
Non, je ne crois pas. Même dans la communauté juive, c'est un type de commémoration qui est tout neuf. Hein. Moi-même, j'ai découvert ce projet il y a une dizaine d'années, pas plus, en me baladant en Allemagne, dans certaines villes, en rencontrant effectivement ces pavés. Donc c'est un projet qui a une dimension, qui a pris une dimension européenne immense. Hein. Je vous ai parlé de 75 000 pavés de laiton sur des milliers de villes, de communes, de villages. Mais une grande partie de la population ne connaît pas vraiment ce projet. Ceci étant, on a fait, on a a fait une communication très très large à Strasbourg. On a eu plusieurs unes des journaux locaux. Il y a eu pas mal d'émissions de télévision, d'émissions radio, d'articles qui ont été publiés dans la presse juive et non juive d'ailleurs. Donc c'est un projet qui se développe et je crois qu'il y a de plus en plus de gens qui le rencontrent et qui apprennent à le connaître. Et je vous ai dit donc au début de l'interview qu'on a des contacts quasiment hebdomadaires par rapport à ces Stolperstein, beaucoup de gens qui viennent nous solliciter, nous parler, nous présenter leur souhait de poser des pierres pour leurs grands-parents en général qui ont disparu. Alors ça ne concerne pas uniquement les familles juives, bien que par exemple pour Strasbourg, 90% des déportés étaient juifs.
Oui.
Et c'est pour ça que le consistoire devait donner son accord. Et la mairie et l'Eurométropole étaient subordonnés à l'accord du consistoire. Donc une fois qu'on a eu l'accord du consistoire il y a deux ans et demi, la ville et l'Eurométropole ont suivi tout de suite et ont donné leur accord. Donc c'est un projet qui a nécessité des tractations, des négociations politiques, on va dire, assez longues et qui a fini par se concrétiser il y a deux ans. Et c'est le 1er mai 2019 que ces premières Stolperstein ont été posées sur 6 sites à Strasbourg. Alors, en printemps dernier, on avait également 57 poses qui étaient prévues, dont 20 à Strasbourg et d'autres à Bar, Dimeringen, Ingwiller, Buxwiller, donc sur plusieurs communes du Bas-Rhin. Et également à la fondation protestante du Sonnenhof de Bijwiller, qui est très connue. C'est une fondation qui abrite près de 300 handicapés.
Oui.
Et durant la guerre, il y a six jeunes et moins jeunes d'ailleurs handicapés qui ont été déportés. Et la fondation nous a contactés il y a déjà plus d'un an pour poser des Stolperstein à la mémoire des handicapés juifs qui ont été déportés. Et donc le projet était tout prêt. Hein. Donc ça a été différé d'une année. On attend.
Qui finance ces Stolperstein?
Alors, ces Stolperstein coûtent 130 euros chaque pavé, c'est rien du tout. Quand on pense qu'il y a tout un travail qui est fait en amont, et ensuite avec la fondation berlinoise, l'artiste se déplace avec un groupe de personnes pour poser ces pierres. Donc il y a des subventions qui sont faites, des aides, des souscriptions, des petits dons, mais bon, on couvre les frais sans problème. Certaines familles font également des petits dons, mais le problème en général n'en est pas un, puisqu'on arrive à couvrir les frais de l'association qui finance ces Stolperstein. Donc 130 euros le pavé. Qui comprennent l'ensemble des recherches, des dossiers, puis des contacts avec la fondation et des déplacements également de l'artiste et de la réalisation du pavé lui-même qui est fait à Berlin. Donc c'est un investissement de pas mal de personnes, dont la plupart sont des bénévoles hein, qui travaillent pour la fondation. Et à Strasbourg aussi, on est tous bénévoles également pour ce genre de projet.
Et justement, à ce propos-là, Richard Abouaf, c'est quoi votre motivation personnelle dans l'implication dans cette association?
Moi, je pense que ça, c'est une façon de... C'est une autre modalité de perpétuer la mémoire des disparus. Je trouve que c'est très intéressant. Puis la démarche artistique de Gunther Demling, qui au départ est une démarche artistique hein, qu'il a installé à Cologne, et puis ça a pris une dimension qu'il a dépassée.
Oui.
Le fait de sculpter un pavé, de noter ses noms sur la face de l'étang, de les graver, d'aller faire des fois 2000 km pour aller les poser sur le trottoir d'un village, c'est une démarche que je trouve très forte, beaucoup plus forte que celle d'un mémorial qui réunit tout. Tout à la fois, et c'est comme je le soulignais tout à l'heure, une nouvelle disposition des historiens, la micro-histoire s'intéresse véritablement aux trajectoires individuelles plutôt que aux dimensions collectives. Et ça me paraît être quelque chose d'extrêmement important. Donc s'installer dans cet espace public, la mémoire de ceux qui ont disparu, ça me paraît quelque chose de très important. C'est ce qui m'a motivé, je trouve. C'est une démarche qui tranche avec toutes celles qu'on connaît.
Richard Abouaf, donc je rappelle, vous êtes président de l'association Stolperstein 67. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. On peut évidemment suivre l'actualité de la pose des Stolperstein au fur et à mesure sur votre site, qui est très bien renseigné. Merci à vous.